Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 5 février, il est 8h30 et au programme de cette matinale, nous serons dans un instant par téléphone avec Serge Marignan pour son deuxième roman, Ironie, la vie, publié aux éditions Le Livre et la Plume. On en parle avec lui dans quelques minutes et puis ça me fait bien plaisir. Il est de retour, salut Raphaël.
Salut à tous.
T'as vu le nouveau générique?
Oui, il est chouette.
Il est bien, hein?
Ouais.
Je me fous un peu de moi-même. Des fois, ça fait pas de mal, quoi. Histoire brève, dis-moi de quoi ça va parler.
Eh bien, nous allons faire une sociologie politique de la Lozère avec approfondissement sur les Cévennes.
Eh ben, dis donc. Ça, tout un programme. Ce sera juste après l'interview téléphonique. Et en dernière partie d'émission, je suis allé à la rencontre de Muriel de Ballet-Brosse et de Fabrice Ramalingomme de la compagnie Rama pour le spectacle Chaton Pogo en première partie et pour le spectacle Génération ensuite. C'était à la Jeannette Verte, c'était vendredi. On en parle avec eux tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito. Vous êtes bien sur Radio Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. C'est la troisième fois en moins d'un mois que des Berlinois se réunissent sur la place de la République contre l'extrême droite entre le Bundestag et la chancellerie fédérale. Au début de la mobilisation il y a 3 semaines, ils étaient 25 000, puis 100 000 et aujourd'hui 300 000 selon les organisateurs et toujours selon la police, 150 000. Mais ce qui est déjà bien. Pour beaucoup, c'est un grand soulagement de voir autant de monde, je cite, défendre le cordon sanitaire. Depuis l'électrochoc d'une conférence secrète entre les cadres de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand et des néo-nazis, les relents des années 30 donnent la nausée à une grande partie des Berlinois. Alors certes, 300 000 personnes, c'est pas encore beaucoup, mais ça permet de montrer que des gens s'opposent et montrent la banalisation du mal. En France, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et ça a piqué tellement que Macron lui déroule le tapis rouge. À quand une mobilisation comme en Allemagne, ce serait bien, mais enfin, on en est encore loin. De retour en plateau, vous êtes bien sur Radio Barthas et si tout va bien, nous sommes par téléphone avec Serge Marignan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, votre deuxième roman Ironie, la vie est disponible, on va en parler, mais d'abord, simplement, comment vous en êtes venu à l'écriture, vous?
Eh bien, par la lecture, je lis depuis mon plus jeune âge et puis j'ai eu envie d'écrire. Et puis quand on a envie d'écrire, au fur et à mesure, on a envie d'être lu. Ouais. C'est un petit enchaînement.
Qu'est-ce qui est le plus difficile, dirions-nous, dans l'élaboration d'un roman?
C'est déjà d'aller chercher, parce que bon, un roman, c'est souvent aussi une biographie qui s'ignore quelque part, hein, parce qu'on est amené de près ou de loin à parler de soi, donc le plus difficile parfois est d'aller chercher ses souvenirs et puis après de les compléter par d'autres recherches. Le temps des recherches est souvent assez long, mais c'est une belle aventure.
Bien sûr. Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez, comme certains diraient, une heure d'écriture tous les jours? Est-ce que c'est une espèce de rituel ou alors c'est en fonction de l'inspiration?
En principe, c'est le soir, mais c'est aussi en fonction de l'inspiration. Et comme je suis quelqu'un qui marche beaucoup, je façonne un petit peu mes histoires, mes phrases en marchant. Et je les affine en arrivant, donc quand je suis chez moi, de temps à autre. Donc c'est vrai que je n'ai pas d'horaire bien particulier, mais en règle générale, c'est plutôt, si je devrais dire, préciser quelque chose, c'est plutôt le soir. Enfin, voilà.
Ironie, la vie, le point de départ, si j'ai bien compris, c'est un concert de John Lee Hooker. C'est de là que tout commence, n'est-ce pas ? Allons-y pour un petit speech.
Alors, le point de départ, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le concert de John Lee Hooker qui a bien eu lieu, lui, en juillet 69 à Antibes, Jean-Lépin, je cherchais le nom. Ouais. Et donc, c'est la rencontre de deux gamins, 12-13 ans, qui habitent dans le Gard, quelques kilomètres l'un de l'autre, et qui ne se connaissent pas, et qui vont faire connaissance, et donc, ils vont avoir, après un choc musical, ils vont avoir un choc amical. Et l'ironie de la vie ou le destin va faire que l'un des deux va habiter dans le village de l'autre. Et là, va alors se forcer une histoire d'amitié. Et l'année d'après, ils vont rencontrer une fille de leur âge quand ils vont faire leur entrée en quatrième dans le Gard. Et là, va naître une histoire, un trio amoureux, un jeu légime. Pour adolescents, que l'on va suivre des années 60 aux années 2000.
En quoi c'est un roman des mémoires et des identités ?
Mémoire et identité, mémoire pour tous les lieux que je cite et dans lesquels j'emmène la lectrice, le lecteur, le Gard, l'Hérault, le Gard où je suis originaire, bien sûr, les Cévennes, aussi, Mialet, qui n'est pas très loin de chez vous, la Haute-Corse, qui est un peu plus loin, et puis Lyon, les endroits où j'ai vécu, que j'ai aimé, et puis les identités à travers, bien sûr, les années 70, c'est les années de l'époque régionaliste, c'est les groupes de chanteurs occitans, donc j'ai bâti mon roman avec ces souvenirs-là, et j'ai emprunté des expressions, des passages traduits en langue d'Ossien, et puis pareil pour la Corse. La langue, pour moi, c'est toujours d'ailleurs la porte de la première porte de la culture.
La musique et le cinéma sont aussi présents dans votre roman, n'est-ce pas ?
Bien sûr, la musique et le cinéma, bon, la musique déjà, parce que commence par John Lee Hooker, mais il n'y a pas que lui. Ces gamins vont créer un orchestre, un groupe pop, un pop-rock qui va emprunter tous les standards de l'époque, que je fais revisiter au lecteur. Et le cinéma aussi, parce que c'est une de mes grandes passions, et donc j'évoque le cinéma, des extraits de films, et puis aussi des extraits de chansons, sans oublier la poésie, la littérature, enfin tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'aime dans cette vie.
C'est pareil pour le cinéma.
Et c'est pareil pour le cinéma.
Alors c'est votre deuxième roman, est-ce que ça a été plus simple à écrire que le premier ?
Non, c'est à peu près pareil. Bon, ils se suivent, ils ne se ressemblent pas, donc l'un n'est pas la suite de l'autre, mais quelque part, ce sont ils ont un petit point commun, c'est la confrontation des années 70 avec les années 2000, et j'aimais bien comment voir évoluer les personnages, comment ils évoluent dans leur pensée, et puis dans leur psychologie, dans leur attitude. Non, il n'y a pas eu de difficultés supplémentaires par rapport au premier, non.
Parlons du titre « Ironie, la vie », d'où est venue l'envie de l'appeler comme ça ?
D'une chanson de Stéphane Escher qui s'appelait... j'écris souvent en musique, pas tout le temps, mais assez régulièrement. Et un jour, à la fin du roman, j'ai entendu la chanson de « Oh, ironie » de Stéphane Escher. Et j'avais pas encore baptisé mon roman. Je l'avais pas encore appelé, il n'avait pas de nom définitif. Et ironie la vie, c'est venu en écoutant cette chanson. Et je me suis dit qu'effectivement, pour le personnage principal, qui est Paul, parce que je ne l'ai pas nommé, il y a Paul, Vincent, et puis la fille, elle s'appelle Anne. Pour Paul, l'ironie va faire que sa vie sera complètement basculée. En fin de roman, pas en fin de vie, parce qu'il a une quarantaine d'années. Et voilà, donc tout ça fait que ça construit ce titre qui claque un petit peu et que je trouve assez sympa.
C'est publié aux éditions Le Livre et la Plume. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Justement, c'est pas trop dur d'être édité ?
Bah, c'est une autre partie du travail. Une fois qu'on a terminé le roman, l'écriture, on recherche l'éditeur, on envoie Mais ça, on envoie des courriels, des lettres, on relance surtout. On rappelle, on relance que ça, il faut pas hésiter, sinon personne vient vous chercher. Et puis donc le livre et la plume, ça s'est fait assez simplement. Et ils sont à Paris, ils sont très disponibles, ils sont à l'écoute. Et bon, ils m'ont proposé cette belle couverture, cette petite aquarelle là qui est toute en couleur, qui représente un trio de jeunes gens. Et voilà, donc pour l'instant, je n'ai qu'à me féliciter de ce choix.
Et est-ce que justement, ils vous ont conseillé ou apporté des corrections, ou alors est-ce qu'ils ont pris le roman tel quel ?
Non, bien sûr que non. Déjà, il y avait des coquilles, il y avait des suggestions à faire, il y avait des lourdeurs. Je l'avais relu, j'avais déjà fait relire à d'autres personnes, mais il faut tellement de Dieu pour traquer tout ce qui ne va pas. Et donc, ils m'ont suggéré pas mal de choses et il y a eu pas mal de travail de fait de ce côté-là. Ah, effectivement, ils ont été d'un bon soutien.
Ouais, c'est de bonne nouvelle de se sentir accompagné et justement qu'une maison...
Ah oui, là, oui, tout à fait, oui. Oui.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se mettre à l'écriture ?
Ben, de ne pas hésiter. De prendre un stylo, un papier, un crayon ou un ordinateur. Moi, je sais que j'écris d'abord sur le papier et puis plus tard l'ordinateur. Mais non, c'est qu'à partir du moment où les mots vous viennent, vous avez une histoire, ben, il faut, même si les phrases que vous couchez tous les jours vous paraissent anodines, eh bien, il faut les conserver et plus tard, on peut se rendre compte que dedans, il y a peut-être quelques petites pépites qui s'ignorent. Mmh. Enfin, pour vous, déjà, pour le lecteur, on ne sait pas. Mais le principal, déjà, c'est d'écrire pour soi et juste après, vient l'écriture pour le lecteur. Mais il faut d'abord se faire plaisir quand on écrit et surtout, d'être étonné, de ne pas se laisser enfermer par les personnages et de les laisser vagabonder un petit peu. Mmh.
Quel bon conseil. Ironie la vie, où est-ce qu'on peut se le procurer votre deuxième roman ?
On peut se le procurer sur commande dans toutes les librairies ou sur les sites de vente ainsi que sur le site de l'éditeur, Le Livre et la Plume.
Évidemment, je mets tous les liens sur notre site dans un instant. Merci beaucoup, Serge.
Merci bien, merci de votre invitation.
Votre deuxième roman, Ironie la vie, est maintenant disponible et je mets les liens dans un instant sur notre site. À bientôt et excellente journée à vous.
Merci, au revoir.
Coucou Raphaël.
Oui, coucou.
Ah bah attends, je vais te... Oh voilà, tu es revenu.
Tu m'avais censuré.
Je te voyais complètement studieux sur tes copies. Raphaël, histoire bref, t'es chaud ?
Oui, oui.
Allez, on y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Histoire brève. Ouais, ça me fait quand même bien plaisir de réentendre ce petit jingle.
Oui, merci. Bonjour à tous, déjà. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai fait de gros efforts pour relever le niveau, comme vous me l'avez signifié, monsieur de Paris. Je me rappellerai toute ma vie de la phrase que vous me hurlâtes hier au téléphone. « Bon, pour demain, tu fais simple, intello et local. » Puis vous avez raccroché, puis vous avez repris le combiné et avez rajouté, à ce qu'on m'a dit, puisque vous aviez raccroché, donc j'ai pas entendu, « du con ». J'ai donc respecté la consigne à la lettre, y compris le « du con ». Je vous propose donc ce matin une sociologie politique locale fine. Pourquoi politique ? Parce que la Lozère a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la Ve République. Notre département abrite les villes présidentielles du Pompidou et de Chirac, ce qui n'est pas rien. Ouais. Mais aussi des villes de premier ministre, puisque nous avons tout de même le village de Barre, un hommage à Raymond, qui était d'ailleurs narcoleptique, peut-être un clin d'œil, mais aussi le village du Borne, au-dessus de Mende, Cazeneuve, dans la commune de Hurlaparade, ou même Chabannes, petit sobriquet de Chamban Delmas, premier ministre de 1969 à 1972.
Excellent.
Rassurez-vous, j'ai vérifié, aucun lieu-dit en Lozère ne s'appelle Le Pen, Bardella, Zemmour ou Mélenchon. Après, on ne sait jamais, mais tous ces noms pourront a posteriori éventuellement être rattachés à ce charmant lieu-dit nommé Les Crottes, que l'on trouve sur le cos de Sauveterre entre la ferme du Choisal et Chanac. Alors, que pensez-vous de ma lecture politique du territoire ?
Ah, absolument génial. Votre avis est absolument incroyable.
Merci, merci. On va être plus spécifique maintenant, en changeant d'échelle et se focalisant plus sur les profils politiques des électeurs de notre département, qui est si particulier, où une ligne de démarcation entre le nord et le sud du département se recoupe parfaitement avec les électeurs de droite et de gauche. Avec même des forts relents d'extrême droite dans nos contrées les plus reculées. Regardez, prenons le cas de la commune d'Arzenc-d'Apcher sur l'Aubrac. J'ai regardé les résultats des élections présidentielles de 2022. Au premier tour, Marine Le Pen arrive en tête devant Macron, Lassalle et Zemmour. Au second tour, Marine rafle la mise avec 70,73% des voix, ce qui lui rapporte en vérité que 29 bulletins dans sa besace. Mais vous me direz que c'est pas grand-chose, mais ça pose des questions. Je veux dire, de quoi ces gens ont peur ? D'un attentat islamiste à Arzeng d'Apché ? Qu'un bus de migrants syriens tombe en panne dans leur bled paumé ? Ou que le Dakar fasse un jour étape chez eux ? Bref. Mais le vote d'extrême droite n'est plus l'apanage de l'Aubrac lausérien, puisque même dans les Cévennes se sont constitués de véritables bastions RN. Cassagnas, Saint-Privat-de-Valongue, Saint-Michel-de-Dèze, Le Collet-de-Dèze ont fait majoritairement le choix Le Pen lors du second tour des dernières élections présidentielles de 2022. Après, vous me direz, pour ces cas, il faut nuancer. Déjà, c'est quand même très proche du Gard. Et puis, dans le cas de Cassagnas, Mélenchon était quand même devant au premier tour, mais quand même. Je pense que si Radio Barthas veut inverser sa ligne éditoriale de façon radicale, ce vers quoi vous poussez, monsieur de Paris,
jamais.
Il faudra déplacer le siège de la station vers l'une de ses communes. Parce que sinon, le reste des Cévennes reste un territoire fortement ancré à une gauche rougeoyante. Prenons un exemple au pif, Gabriac. Si Gabriac avait été une photocopie politique de la France, Jean-Luc Mélenchon aurait été élu président de la République au premier tour des élections présidentielles de 2022, puisqu'il y a obtenu 56% des voix. Après, vous me direz, la politique, c'est comme pour le cinéma. Les dernières affiches et les nouvelles modes arrivent ici avec un temps de retard. Je pense que dans une vingtaine d'années, on arrivera aussi à voter Zemmour en masse ici. Mais bon, d'ici là, il sera déjà président de la Commission européenne et vous, monsieur de Paris, vous serez son attaché parlementaire. Mais quoi qu'il en soit, cette petite approche politique des Cévennes en dit long sur la sociologie si particulière de notre petit coin perdu. Chaque vallée, chaque village a sa propre spécificité sociologique. Finalement, les Cévennes, c'est un peu comme les villes françaises, en mode « dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es ». Par exemple, la capitale des Cévennes, l'équivalent de Paris pour la France, c'est Florac. C'est notre centre administratif et politique avec la sous-préfecture et le siège des grandes institutions locales comme le parc national des Cévennes. C'est là qu'on trouve les plus grandes entreprises du secteur avec par exemple le géant du BTP, SB, les grandes enseignes commerçantes comme Intermarché, Carrefour ou Gamme Vert, sans parler de notre industrie de luxe avec les ateliers Tufferie. Pensons encore à la filière des commerces bio qui sont là pour satisfaire la clientèle la plus exigeante en matière d'agroalimentaire et qui est prêt à y mettre le prix, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, Florac, c'est le haut lieu de la culture avec sa salle de spectacle de la Jeunette Verte, son temple du sport avec Patrick Labeaume synthétique, ses médias d'influence avec Télédrail et bien sûr Radio Barthas, pas de salle de cinéma à Florac en l'occurrence. Quant aux Floracois, ils ont en eux cette précieuse supériorité qu'ont les citadins vis-à-vis des bouseux qui les entourent. Parce qu'ici c'est la ville, c'est pas la banlieue qu'il y a au-delà du périph', enfin du rond-point comme Saint-Julien-du-Gour ou la salle Prunet pour les quartiers sud. Florac, c'est aussi nettement plus peuplé que tous les autres métropoles cévenoles. Pour paraphraser ce grand géographe qui était Jean Godman, nous n'avons pas Paris et le désert français, mais bel et bien Florac et le désert cévenol. C'est quoi ces autres bleds cévenols d'ailleurs ? Ce sont des grands centres urbains secondaires, comme le pont de Montvert, qui, comme Lyon, nous a fourni tant de personnalités politiques de premier plan pour le territoire. Le pont de Montvert, c'est notre ville lumière qui a brillé sous les projecteurs des plus grands cinéastes comme Caroline Vignal avec Antoinette dans les Cévennes.
Ouais.
N'est-ce pas ?
Ouais.
C'est Hispaniac aussi, l'alter ego de Marseille, coincé entre eau et montagne, là où règne un microclimat et où, faute de pastilles, on fait du vin. On a Bédouès, c'est la Saint-Denis, la banlieue craignosse de Florac, avec sa collégiale pontificale, un lieu et place de la basilique des rois de France. Et on peut faire ça pour tous les autres bleds cévenols. Tenez, Saint-Enimi, c'est Nice, une ville touristique qui ne vit que 2 mois dans l'année et où il fait bon vivre, mais dont la population blanchit à vue d'œil, à l'image des effectifs de son collège réduit à moins de 17 élèves. Vébron, c'est Cannes, avec son festival de films qui attire chaque année tous les plus grands. Meruès, c'est Biarritz, perdu là-bas dans un coin du département. De la même façon que les Basques traînent plus souvent leur godasse à Saint-Sébastien ou Bilbao, les habitants de Meruès sont attirés comme un aimant par le Vigan et Millau. Saint-Laurent-de-Trèves, c'est Monaco. Perdu sur son rocher là-haut, on n'y trouve que des dinosaures. Et les plus grands milliardaires émigrés, n'est-ce pas, monsieur de Paris ? Bar, c'est le Nord, c'est Lille, ou plutôt non, c'est Hénin-Beaumont. C'est un climat rude, avec des gens rudes qui préfèrent l'entre-soi. Si t'es pas de bar, tu te barres. Sainte-Croix-Vallée française, c'est l'inverse. C'est Montpellier, c'est l'open bar. C'est la ville jeune qui veut rester jeune en défiant l'autorité. C'est pour ça que dès la sortie de boîte, t'as toujours les flics qui t'attendent avec des alcotests et des tests salivaires. Hurlaparade, c'est Toulouse, d'où tu peux péter ton cassoulet jusqu'à faire souffler des vents records sur les gouelles. Rousse, c'est Grenoble, perdu dans un trou, peinard, au creux de la montagne qui ne t'amène que de l'ombre et de l'eau. Saint-Martin-de-Lensuscle, c'est Brest, perdu là-bas au bout du monde. D'où que tu viennes, il te faudra mettre 3 plombs pour y aller. Saint-Julien-d'Arpan, c'est Clermont-Ferrand. Tout le monde connaît son monument principal, même si, faute de cathédrale noire, on y a un château rouge. Mais on le reconnaît surtout pour son garage. C'est pas Michelin, mais c'est le garage Labeaume qui pouvait remettre sur les rails n'importe quelle machine qu'on lui montrait. C'est l'occasion d'ailleurs de lui rendre hommage. Saint-Étienne-Vallée-Française, eh ben, c'est Saint-Étienne. Avec tous les prés qui l'entourent, elle est toujours verte. Cocurès, c'est Bordeaux, le plus grand coin baignade du Tarn qui continue d'ailleurs sa route jusqu'à la Gironde. Elle abrite une place gastronomique célèbre et une scierie suffisamment grande pour tailler tous les pains des Landes. Vialas, c'est Strasbourg, perdu là-bas dans l'Est, leur accent tient plus du Gard que du Lozérien. Voilà, pour faire court, ce que l'on peut percevoir des Cévennes. Vous remarquerez que j'ai oublié de parler des Cévennes hors 48. C'est un sacrilège pour certains, mais tant pis, j'assume. Et puis qu'on soit en Ardèche ou dans le Gard, ce n'est pas les mêmes Cévennes que les nôtres. Et de toute façon, les ondes de Radio Barthas n'arrivent pas jusque là-bas. Faisons donc comme dans le Nord, Lozère, restons bien entre nous et continuons de crever les pneus de tous ces foutus voleurs de châtaignes et de champignons.
Waouh. Eh ben dis donc, vous étiez inspiré, monsieur Ducon, ce matin.
Oui, eh ben j'ai suivi votre consigne.
Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël, on refait un nouveau clin d'œil à l'histoire. Ce sera quoi cette fois-ci?
Et nous allons parler de Mussolini.
Eh oui, on est comme ça. La diffusion, ce sera ce samedi à partir de 11h. Qu'est-ce qu'on écoute?
Nous écoutons les Ogres de Barbac 3-0 pour faire écho justement à la chronique.
Bien joué, à tout de suite, vous êtes bien sur Radio Barthas.
Il y a Paris, la capitale, qui renifle son trou de balle intramuros. C'est brillant dehors, c'est pour les paysans. D'ailleurs, s'il n'en restait qu'une, ce serait sûrement celle-là, qu'une. Aussi con que la lune et prétentieuse comme il se doit. Mais Paris, ça reste en France, les Français restent des Français. Les chevilles en évidence, le nombril insatisfait. Et oui.
À Reynaud, il fait bon vivre, j'y ai vu, pardonnez-moi. Des masses de foule ivre, des seringues plein les bras. Un soir, une chose amusante sur la route, croyez-moi. La police qui plaisante d'un cadavre sur le toit. Mais Rennes, ça reste en France, les Français restent des Français. Des reins en convalescence, des poumons dans le regret.
Puis à Bordeaux, la bourgeoise, avec son grand cru classé, qu'on déguste dans l'extase, dans les grands lieux new-yorkais, qui indique à sa mémoire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si pour Papon c'est un trou noir, le Girondin c'est un succès. Bordeaux ça reste en France, les Français restent les Français, des trouillards de gauche en transe, ou des cons de droite muets.
À Toulouse, la ville rose, peut-être sont-ils un peu chauvins. Quand ils jacassent pas du rose, ils te parlent des Toulousains. Ils ont un patois, bien sûr, qu'ils utilisent parfois pour écrire sur les murs d'une usine, plus jamais ça.
Oui, Toulouse, ça reste en France, française, et Toulouse, française. Les gars, ils les menacent sur des rythmes mal volés.
Et puis il y a Marseille qui a son port si charmant, sa Méditerranée belle, sa sardine et ses harangues.
Mais qui harangue? Ben je parle de harangue, Marseille.
C'est pour la rime luxe, ça charmant.
Attends, j'en ai une bonne, favouille.
Favouille, ça rime pas, hein.
Attends,
ça rend. Ah, ça rend, ok, ben on va recommencer, on va essayer. Et puis il y a Marseille qui a son port si charmant, sa Méditerranée belle, sa sardine et ses harangues.
Comme un tout petit village, un hameau ensoleillé qui n'a qu'un désavantage.
Le Marseillais.
My Marseille à cause de la France, les Français restent des Français, des grandes gueules à qui on pense quand on veut avoir la paix.
Entre le Rhône et la Saône, il y a Lyon et ses reflets. En banlieue, il y a sa zone, ses odeurs et ses rejets. Sa gastronomie connue qui veut nous faire oublier, pour ne pas être déçu de ses scandales financiers. Mais Lyon, ça reste en France, les Français restent des Français. De bonnes bouffes en concurrence, des noms dissous le palais.
Lorsque j'ai connu Strasbourg pour la toute première fois, je pensais trouver l'amour dans les rues de celle-là. Mais il y eut soudain un doute dans cette ville un peu cruche où l'on parlait de choucroute, d'Europe et de flamme cuche.
Avant, je trouve pour épris d'une franc-riche.
Les Français restent des Français
de l'intérieur.
L'égalité en freelance, l'humanité qui s'essaie.
Du verre que l'offre nord.
Il y a l'île dans le nord, comme il y a le nord en l'île. Des grands hommes gras et forts ou des consanguins débiles. Des grands projets planétaires qui dépensent sans se soucier. À deux pas de la misère, des petits enfants minés. Ouais mais l'île, ça reste en France. Les Français restent des Français, des terrils d'arrogance. L'inégalité au sommet, mais...
Après cet air géographe, une petite explication. Je ne cherche pas les baves, je ne cherche pas la baston. Mais lorsque je vois au loin qui agitent leur drapeau, la grande race des chauvins juste à côté des fachos. Bah moi qui suis né en France dans un bled incognito, je ne comprends pas la démence, je ne vois pas les idéaux de ceux qui pensent la naissance comme une attache, un ghetto. Pardonnez-moi cette offense et traduisez-moi ces mots. Issu de la poussière, je m'en retourne à la poussière. Issu de la planète Terre, je m'y promène sans frontières.
Issu de la poussière, on s'en retourne à la poussière. Issu de la planète Terre, on s'y promène sans frontières.
Tiré de l'un des meilleurs albums des Ogres, Terrain Vague, c'était 3-0. Alors, dans un instant, on va partir à la Jeunette Verte, puisqu'on va aller à la rencontre de Muriel, prof de danse à Ballet-Brosse, et de Fabrice, qui est chorégraphe. On écoute d'abord Piaf, si je ne me trompe pas, ouais, La Vie en Rose. A tout de suite.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. À plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, la jurée pour la vie. Dès que je t'appelle,
on vient d'écouter Édith Piaf, La Vie en Rose. Vous êtes bien sur Bartas. Vendredi à la Jeunette, c'était le spectacle Chaton Pogo, chorégraphié par Fabrice Ramalingam, interprété par les élèves de Ballet-Brosse, puis son spectacle Génération. Je suis allé à sa rencontre et à la rencontre de Muriel de Ballet-Brosse juste avant la représentation. C'est parti.
Bonjour, je suis Muriel Auger. Je suis professeur de danse à Ballet-Brosse à Florac.
Et moi, je suis Fabrice Ramalingam, je suis chorégraphe de Montpellier, de la compagnie Rama.
Allons-y pour la genèse de ce projet Chaton Pogo. Comment tout a démarré?
Alors en fait, c'est un projet danse amateur et répertoire. C'est un dispositif national porté par le CND, le Centre National de la Danse, qui finance tout un travail sur la transmission des œuvres de répertoire. Et une œuvre est classée dans le répertoire quand elle a 12 années d'ancienneté. Et donc on monte un dossier et le CND finance une partie du travail avec le chorégraphe sur une transmission.
Donc ça vient de Maipogo, d'une pièce de mon répertoire. Et donc quand j'étais en contact avec Ballet Brosse et avec Muriel, comme on avait déjà dansé cette pièce-là en 2012 sur le plateau de Florac et qu'elle s'en souvenait, elles m'ont contacté pour justement remonter des extraits de pièces. Or, je ne voulais pas remonter des extraits de pièces, je voulais partir du processus de création de Maipogo et faire une autre pièce. Donc c'est une création Chaton-Pogo, c'est une création pour Ballet Brosse. Ce n'est pas du tout un remontage.
Comment ça s'est passé clairement dans le processus
Super
de
bien.
Comment ça s'est passé dans le processus de création concrètement? Comment tu as travaillé, Fabrice?
Alors je suis venu plusieurs fois. Je suis venu combien de fois, Muriel?
Oui, je dirais 5 week-ends, quelque chose comme ça, à peu près.
Voilà. Et dès l'échauffement, j'essaye de transmettre des façons d'être en relation avec les uns et les autres, avec soi-même aussi. Et je transmets des outils. Et c'est des outils à la fois chorégraphiques, techniques de danse, mais aussi chorégraphiques, le travail de plateau. Et donc, au fur et à mesure, on a composé des petits modules comme ça, entre 5 personnes, 3 personnes, etc. Et à la fin, j'ai fait une dramaturgie à partir de ces différents modules, et ça crée un élan comme ça, d'une seule traite. C'est ça, hein, ça fait comme un développement d'une seule traite.
En fait, Fabrice, c'était vraiment un choix très clair pour nous, parce que Maipogo avait été dansé ici. Il y a des danseuses qui ont participé au projet qu'il avait vu. Donc, quelque part, ça faisait écho à leur mémoire de la pièce. Et nous, c'est vrai qu'on a une histoire avec Fabrice qui est déjà venu travailler avec nous, qu'on connaissait par d'autres côtés aussi. Et donc, en fait, ça, c'était... le choix de la pièce s'est fait comme ça, assez... naturellement, je dirais. Et puis, il y a aussi un travail de réflexion avec Alice Brugeron, la directrice de la Jeunette Verte, parce que c'est un partenariat. Et on avait envie d'avoir aussi, de travailler avec quelqu'un qui aurait une pièce qu'on puisse programmer à la Jeunette Verte l'année suivant le projet. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc en fait, moi, je fais le lien avec Fabrice. J'ai un peu le rôle aussi de regard extérieur. Et quand Fabrice n'est pas là, je fais un travail de répétitrice. Je fais répéter les élèves, quand Fabrice n'est pas là, en essayant de transmettre ce qu'ils me demandent de leur faire travailler en particulier. Alors moi, j'adore faire ça. Quand j'ai commencé dans le travail, dans mon métier de professeur de danse, j'ai commencé par ça. Et vraiment, j'adore. Parce qu'on voit le chorégraphe, on voit travailler la matière, on voit travailler les corps, on comprend sa réflexion, on comprend comment... en fait, l'impulsion créatrice arrive, comment il réfléchit, et après, comment il transmet ça aux danseuses, c'est fascinant. C'est vraiment, c'est un cadeau, quoi.
Justement, le partage, c'est quelque chose qui est ultra important pour toi.
Alors, comme disait Muriel, moi, j'ai une histoire avec Ballet Brosse depuis très longtemps, parce que je suis venu, en fait, je pense, dès 99, quelque chose comme ça, ou peut-être 2000-2001. Et j'ai fait une série d'ateliers qui étaient Feldenkrais avec Claude Espinassier et danse. Je crois que j'ai montré une pièce ici, mais je m'en souviens plus à l'époque, tu vois. Donc, et après je suis revenu avec Maipogo. Donc il y a vraiment une histoire. On continue avec Ballet Brosse. Et effectivement, le côté pédagogique et de transmission me plaît puisque en fait, j'ai travaillé avec Dominique Bagoué, qui est le chorégraphe qui a créé le Centre chorégraphique national à Montpellier et le festival Montpellier Danse. Et il est décédé en 92, et assez vite, déjà dans la compagnie, on avait de la transmission et de la pédagogie. Mais après son décès, avec les danseurs, on s'est mis ensemble et on a réfléchi à qu'est-ce que ce serait une transmission. La transmission de pièces, la transmission d'une esthétique, la transmission d'une pensée, dans le travail pédagogique. Toutes ces questions-là me plaisent à me mettre en action aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment mon terreau. Et par-dessus, évidemment, j'aime créer. Donc à chaque fois, je lis la création avec la pédagogie. Pour moi, c'est très très lié.
Comment on sent là, comment vous sentez un peu les danseuses? On est à quoi? On est à 1h20, allez. Comment tu te sens? Est-ce que tu es aussi stressée qu'elle? Comment ça se passe?
Alors moi, je suis pas trop stressée parce qu'en fait, je ne danse pas. Voilà, moi, je serai en régie. Je vais m'occuper un peu du son. Je vais un peu les accompagner et les soutenir. Là, on sent la pression monter. Puis pas que la pression, une certaine nostalgie parce qu'en fait, c'est la dernière date. Potentiellement, c'est la dernière fois qu'elles vont le danser. Dans le groupe, il y a des lycéennes qui passent le bac cette année et qui vont aller vivre une nouvelle vie l'an prochain. Donc, c'est aussi un peu un au revoir à certaines élèves. Après, c'est vrai que ce projet, c'est quand même quelque chose, moi, que j'ai trouvé très fondateur dans l'association parce que on est plusieurs professeurs de danse. Donc, il y a Isabelle Minetto qui fait du Feldenkrais. Depuis l'an dernier, on a été rejoint par Lise Galzin. Et Lise, en fait, elle danse dans la pièce, là, Chaton Pogo. Donc, il y a une espèce de, voilà, on est en train de créer notre histoire commune aussi avec cette pièce. Et puis, on a eu le regard de Pascal Parouti, qui nous a accompagnés, qui a été la fondatrice de Ballet Bros. Donc, et vient de commencer à travailler avec nous Pedro Prazeres, qui connaissait aussi Fabrice. Donc, en fait, voilà, il y a une espèce de quelque chose de fondateur qui est en train de se passer autour de Chaton Pogo et de la venue de Fabrice. Et je trouve que c'est beaucoup d'émotions, quand même. Donc là, c'est vrai que moi, ce soir, je me sens un peu fatiguée. Et je pense que c'est dû, voilà, à l'émotion de ces derniers jours, au fait d'arriver au bout de quelque chose. Et je suis très impatiente de voir Génération. Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'élèves de Ballet Bros qui viennent. On a beaucoup d'élèves de jeunes et de plus âgés. Parce qu'on a essayé de vraiment informer sur cette idée, du thème de génération. Et donc, voilà, on attend la soirée avec de l'émotion et de l'impatience, vraiment.
Transition toute trouvée hein, pour le spectacle de ce soir. Alors, commençons par une question. Je dis toujours un peu hein, sur les gens que je vais voir et interviewer. Est-ce que tu peux nous parler de la fièvre du samedi soir?
Tu as lu quelque chose sur moi avec ça.
Il paraît que vers 13 ans, fallait bien reproduire un peu les pas de danse de Travolta.
En fait, ça n'a pas commencé avec Travolta, ça a commencé avec Claude François, où je reproduisais les chorégraphies de Claude François. Mais John Travolta, pour moi, c'était un dieu, parce que il était reconnu par la danse, et pas la danse qui complète la chanson ou autre chose. Travolta, c'est un danseur, il est reconnu parce qu'il est danseur, et pas chanteur qui danse. Donc ça, pour moi, c'était... Maintenant, je l'analyse, hein, mais à l'époque, c'était simplement... j'avais envie d'être comme lui, je dansais comme lui, je reproduisais ce qu'il faisait, etc. Mais c'est peut-être ça qui a déclenché beaucoup de choses en moi de danse, bien que je pense qu'il y avait déjà au sein de ma famille la danse. Donc c'est pas le point du commencement, c'est un des commencements.
Alors justement, parlons un peu de ton parcours. Comment on apprend à être danseur, chorégraphe comment ça se passe?
Alors c'est, je crois que c'est très singulier à chacun hein, ça. Moi, mais je pense quand même qu'il y a les rencontres. C'est étrange, mais c'est comme ça. C'est les rencontres. C'est les rencontres qui font que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, viens prendre un cours de danse avec moi. Ou tiens, il y a tel chorégraphe qui veut passer l'audition. Et ainsi de suite. Et moi, j'ai que par les rencontres, j'ai fait mon chemin. C'est-à-dire que ma sœur qui me dit, si on allait prendre un cours de danse, viens avec moi. La prof de danse qui me dit, oh putain, mais tu danses super bien. Viens dans mon groupe, je monte sur scène, tout de suite sur scène, je dis, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Elle me dit, ok, tu veux faire ça, mais alors, il faut que tu prennes des cours à Paris. Je prends des cours à Paris, un copain à Paris me dit, il y a une école nationale qui s'appelle le Centre National de Danse Contemporaine à Angers. Si tu veux, on passe l'audition, je passe l'audition, je suis pris. Quand je suis au CNDC à Angers, un copain danseur, Vincent Druguet, me dit, il y a Bagoué qui donne une audition. Est-ce qu'on y va ensemble? Je suis allé, puis voilà, j'étais pris. Donc il y a vraiment un chemin comme ça, et c'est que des rencontres, en fait, pour moi.
Parlons du spectacle de ce soir. Est-ce que tu peux nous faire un petit speech?
Alors, il y a une pièce antérieure qui s'appelle Postural. C'est ma première pièce. C'est la première pièce de ma compagnie Rama. Il y avait deux pièces. Il y avait mon solo et il y avait cette pièce qui s'appelle Postural. Et mon solo, c'était le singulier pluriel, c'est-à-dire je suis seul en scène et il y a plusieurs. Je suis plusieurs en moi. Et sur Postural, c'était 15 hommes de différentes générations. Donc c'était du plusieurs au singulier. Et donc cette pièce-là, elle finissait par un face-à-face. Tout le monde partait au fur et à mesure du plateau et laissait sur le plateau deux personnes, le plus vieux, le plus jeune qui se faisait face. Et le plus vieux partait après. Mais ce face-à-face, dans ce face-à-face, en fait, il faut que je te dise quand même, au début de ces répétitions de cette pièce, mon père est décédé. Il fallait que je fasse cette pièce. Et à chaque fois que je voyais ce face-à-face, je pleurais. Et en même temps, je me disais, mais en fait, ça, c'est le début d'une pièce. Donc depuis 2007, j'ai l'idée de faire une pièce entre un homme jeune et un homme vieux. Et qu'est-ce que ce serait la rencontre de ces deux personnes-là? Dans cette pièce-là, Postural, il y avait déjà Jean, c'était pas le plus vieux, hein. Il y avait déjà Jean qui dansait, et je le trouvais magnifique, et je voulais le remettre en scène. Donc je savais qu'il allait être le plus vieux, mais je connaissais pas le plus jeune. Et je l'ai cherché, j'ai rencontré Hugues à la formation Colline à Istres. Et là, je me suis dit, ah, peut-être il peut y avoir quelque chose. Et on a fait une pièce ensemble qui s'appelle Frérocité avant Génération. Et là, ils se sont rencontrés comme des potes, quoi. Il y avait vraiment... C'était comme deux potes qui se marraient tout le temps, qui faisaient il y en a un qui dansait, qui montrait, l'autre qui essayait de reproduire... C'était vraiment... il n'y avait pas d'âge. Entre eux, il n'y avait pas d'âge.
Donc ça veut dire que la création et les mouvements de danse après qui se sont passés se sont faits un peu entre eux, comme ça, en mode rencontre.
Mais ouais, exactement. C'est ça. Moi, je posais les conditions. Et eux, ils s'amusaient. Je disais, oui, c'est ça, ben, on va garder ça. Et au fur et à mesure, ça grandit comme ça. Et l'autre chose aussi que j'avais envie de traiter, c'était plusieurs thèmes que je voyais chez eux, et donc on se faisait des promenades dans la campagne, parce qu'on allait à Paris, on était dans un studio qui était à Vincennes, au centre de développement chorégraphique de Vincennes, et donc on partait de Paris, on traversait le bois de Vincennes comme ça pour y arriver, et dans ces longues marches, je leur posais des questions sur qu'est-ce que c'est pour vous l'amitié? Qu'est-ce que c'est pour vous l'engagement? Et puis aussi la nature, parce qu'ils sont fans de nature tous les deux, ils sont fans d'oiseaux. Mais vraiment, quoi. Ils disent, ah, regarde là, c'est une bergeronnette, je sais pas pourquoi, enfin moi je connais rien. Et donc ils disaient, non, ça c'est une bergeronnette, machin, et l'autre ils disaient, non, c'est une bergeronnette, il y avait des discussions sur, tu vois, ou alors un arbre, ils disaient, non, ça c'est un orbier, je sais pas quoi. Non, parce que regarde, les veines elles sont comme ça, donc c'est un orbier. Et donc ils étaient fans de nature et de, tu vois. Donc moi je me délectais de ça, quoi, et je mettais dedans des questions comme je te dis l'engagement, l'amitié, la mort,
d'ordre philosophique, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc après je les ai mis à la table et je les ai fait parler, je leur ai fait écrire des textes dont on s'est pas servi forcément, mais qui ont construit la relation entre les deux. Et des textes, il y a un texte qui est sur le plateau.
Donc qui est dit, lu, ou c'est le son qui passe?
Alors il y a des voix off, ça c'est le premier dispositif, et il y a un deuxième dispositif où c'est en direct.
En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que t'essayes de lier vraiment toutes les émotions, les arts, les instants de réflexion dans la danse. Est-ce que tu crois que nos vies doivent être régies comme ça, en fait? Parce que des fois, on a l'impression qu'on est à l'extérieur de tout. Et toi, j'ai l'impression que tu ramènes tout en un intérieur, en fait, et pour ressortir de la danse, en fait.
Moi, j'ai l'impression que la société veut que ce soit extérieur à nous. En nous mettant des téléphones dans les mains, en nous mettant des images sans arrêt. Mais en fait, on est traversés. On a tous eu quelqu'un qui est tombé amoureux de ou amoureuse de nous, nous-mêmes on a été amoureux ou amoureuse de quelqu'un, on a de l'amitié, on a été engagé sur même dans des discussions, on a peut-être eu quelqu'un, enfin moi mon père par exemple, on a eu quelqu'un qui est décédé dans notre vie, qu'est-ce que c'est le rapport à la mort? On voit bien que quelqu'un vieillit, donc il se rapproche de la mort, et en même temps, bah, c'est aussi notre mort qu'on voit à travers cette personne-là. On est traversé par ça. Alors, toi, tu dis des questions philosophiques, mais moi, je pense que c'est des questions juste profondes et qu'on partage tous. Voilà. Et quand on met quelqu'un sur un plateau, en fait, même s'il ne parle pas et s'il danse, il est traversé par ça. Donc moi, ce que j'essaye de faire souvent dans mes pièces, c'est déjà de comprendre quelles sont les relations humaines des personnes sur le plateau, même si c'est que de la danse abstraite. Hein. C'est quoi les relations humaines? Et qu'est-ce que chacun porte de fragilité, de force, de conviction, de poésie, de tout ça. Et j'essaye de mettre ça, et donc c'est comme en peinture où tu mets deux couleurs à côté et tu vois comment elles vibrent, ou deux sons si t'es musicien, et de voir comment ça, il y a une espèce de tension, voilà. Ben en danse c'est pareil. Je mets deux personnes, mais ça c'est les corps et c'est les personnalités. Même s'il y a des gestes, même s'il y a de la danse, il y a ça aussi qui lie.
Deux petites dernières questions pour finir. On danse depuis qu'on est tout petit. C'est-à-dire que dès qu'on sait marcher, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de bouger quand on entend la musique.
Bien sûr, ça, j'en suis convaincu moi aussi.
Et qu'est-ce qui fait qu'on le perd à un moment, à ton avis?
Ben, c'est les injonctions de la société. Pourquoi la danse n'est pas à l'école? Pourquoi elle n'est pas enseignée à l'école alors que... Bon, la musique, elle est peut-être mal, mais elle est enseignée à l'école, tu vois, mais elle existe. La peinture aussi. Pourquoi la danse n'est pas à l'école? Bon, on ne sait pas. Quand les garçons dansent, à un moment, on les regarde d'une drôle de façon. Un peu moins maintenant, mais quand même encore. Pourquoi c'est stéréotypé fille? Pourquoi le hip-hop est stéréotypé garçon? Il y a des trucs comme ça que la... C'est comme si on allait dans l'injonction de la société. Moi, ce que j'essaye, c'est justement de décloisonner, de dire, bah, attends, bouger juste une main qui tombe comme une feuille, c'est de la danse déjà. Alors, bon, tout le monde sait le faire, ça. Donc, on danse tous.
Revenons aux essentiels, mettons de la musique partout et dansons comme des fous jusqu'au bout de la nuit. La dernière question est assez simple, j'ai la chance moi dans mon métier de rencontrer des comédiens qui donnent des ateliers ou des musiciens qui vont donner des cours de musique, hein, des vrais, pas de, enfin voilà, on donne notre avis comme on veut. Quel conseil tu dis là à quelques minutes là où les danseuses vont rentrer? Est-ce que le plus gros stress c'est quoi? C'est de monter sur le plateau? C'est quoi? C'est de trouver le plaisir au moment, parce que c'est très court finalement ce temps-là où elles vont monter sur scène. Qu'est-ce que tu vas leur dire juste avant qu'elles montent sur scène?
Quand moi j'étais danseur chez Bagué il disait tout le temps, vous lâchez rien, vous faites bien les choses, et puis après la fin il disait, et vous oubliez ce que je viens de dire, amusez-vous.
C'est là-dessus qu'on va faire. Merci beaucoup Fabrice.
Merci, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi avec l'association 48 de cœur et un reportage sur les rencontres nationales de la pierre sèche et de la lauze. C'était samedi à Mende et c'était passionnant. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec les Doors. Bonne journée, ciao.
Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and hack we're out alone, riders on the storm, there's a killer